Richard Ramos, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Oui, alors, je vois que vous faites des grands gestes. C'est MoDem, République en Marche.
Non, pas MoDem, République en Marche. MoDem, majorité présidentielle. La République en Marche étant un parti à part, dans lequel je n'appartiens pas.
D'accord, voilà. Cette rectification est en fait... Donc, on va parler de vos premiers mois de député et balayer avec vous l'actualité politique riche de ces derniers jours. Mais place tout de suite à l'actualité chaude de la matinée concernant la polémique autour de l'ex-futur lycée de Châteauneuf-sur-Loire, Christian Bidault.
Oui, l'actualité est très chaude puisqu'il y a encore quelques minutes, Richard Ramos, vous étiez dans le bureau du recteur et avant de rentrer dans le bureau, vous nous avez montré vos bottes. Alors vous allez nous expliquer pourquoi ces bottes. La dernière fois, c'était des oignons. Là, c'était des bottes, non pas des bottes d'oignons, mais des bottes de paysans. Donc c'est l'affaire du lycée de Châteauneuf-sur-Loire. Expliquez-nous votre position. Vous défendez la ruralité contre la métropole. C'est ça votre position aujourd'hui ?
Alors, je défends la ruralité, pas contre la métropole. Je défends la ruralité tout court. Il y avait une étude de la région qui a conclu à l'installation d'un lycée à Châteauneuf-sur-Loire. On a même été jusqu'aux études de sol. Voilà. Est sortie du chapeau une autre étude où l'ensemble des élus du territoire ont appris que finalement, le lycée ne pourrait ne pas se faire à Châteauneuf-sur-Loire. Et les élus sont venus me voir, Florence Galzin et d'autres, me disant « On a eu l'impression d'être méprisés en tant que ruralité par Madame la rectrice ». Parce qu'on expliquait qu'on ne pouvait pas convaincre des parents de faire 20 km pour aller au lycée à Châteauneuf. Concluant en creux que des élèves de Châteauneuf pouvaient faire 20 km pour aller à Orléans. On a été blessés. Donc, symboliquement, j'ai porté cette paire de bottes pour dire à Madame la rectrice, venez dans la ruralité. Voilà, et cette paire de bottes, ce symbole de la ruralité, vous permettra de mieux la connaître.
Alors, est-ce que Madame le recteur vous a expliqué pourquoi les chiffres démographiques scolaires n'avaient pas été donnés à la région lorsqu'elle a fait son étude, puisqu'il semble qu'effectivement ces chiffres disent qu'il faut un lycée à Orléans et non pas à Châteauneuf.
Alors,
on ne comprend pas là. C'est...
Mais vous avez tout à fait raison, c'est on ne comprend pas. Nous, c'est simple, la région défend un lycée à Châteauneuf-sur-Loire, sauf si monsieur le président de région nous dit l'inverse. Mais Mme Beignet, vice-présidente de la région, il y a quelques jours, dit « La position de la région est claire, c'est un lycée à Châteauneuf-sur-Loire ». Et donc, conclusion, les chiffres payés par la région, donc payés par le contribuable régional.
Plusieurs dizaines de milliers d'euros.
Plusieurs dizaines. Jusqu'aux études de sol, on dit « Il faut ce lycée-là ».
Puisqu'on avait trouvé le lieu à Châteauneuf où allait être construit ce lycée.
On avait trouvé le lieu, fait des études de sol. Ça veut dire que toutes les conclusions des études étaient « Il faut ». Un lycée à Châteauneuf-sur-Loire. Et là, sort du chapeau, une étude dont nous, les élus ruraux, nous n'avions pas connaissance. Et on nous dit, ben non, finalement, les chiffres ne sont pas bons, les chiffres de la région ne sont pas bons. Non, il y a un moment donné, il y a eu un engagement de territoire. On respecte l'engagement du territoire.
Mais alors, qui a changé d'avis? Le rectorat ou ça vient d'ailleurs?
Alors, il y a plusieurs hypothèses. Le rectorat me dit ce matin, mais monsieur Ramos, nous, les études, on les a faites il y a un an. On n'a pas changé d'avis, on a donné des chiffres, voilà, on les a donnés à la région, voilà, regardez peut-être du côté de la région, ce que je ne manquerai pas de faire, moi.
Oui, mais il y a un an, parce que M. Benoît a annoncé sa décision, j'y étais, en décembre 2015, à Châteauneuf.
Oui.
Donc c'était il y a plus qu'un an. Donc à l'époque, la région n'avait pas pris l'avis du rectorat.
Je ne sais pas, je ne peux pas répondre pour eux. En tout cas, la région s'est engagée, avec des études payées par le contribuable, à installer... Un lycée à Châteauneuf-sur-Loire, monsieur le président de la région, monsieur François Bonneau, je ne doute aucunement que vous respectiez vos engagements.
Alors cette affaire, comme celle des oignons, Richard Ramos, vous situe dans la défense de la ruralité. Est-ce que vous n'avez pas peur quand même qu'on vous mette une étiquette de droite? Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, monsieur Wauquiez commence un tour de France des zones rurales, que l'homme de la ruralité en région, en Loire-et-Cher, c'est Guillaume Pelletier, LR également. Vous êtes à contre-courant de votre gouvernement.
Alors, vous savez, moi je vais vous dire... Pour les gens de droite, j'ai toujours été quelqu'un de gauche, voire même d'extrême gauche. Quand je fais une opération avec mon ami personnel, François Ruffin, de la France Insoumise, et qu'on fait 2 millions de vues sur Internet, on me dit « Regardez Ramos, il est d'extrême gauche ». Et puis quand je me mets à mettre avec la ruralité, « Regardez Ramos, il est de droite ». Si vous saviez comme je m'en moque, comme mon premier biberon. Moi, ce qui m'intéresse, je suis un député du peuple, député des combats. Un combat m'intéresse, un combat je le crois juste, je le défends. Et vous savez, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite. Les gens, ils en ont ras-le-bol de ça. Et donc, la vraie innovation, c'est quoi? C'est qu'on s'en fout d'être de droite ou de gauche. C'est de défendre le peuple français.
On s'en fout d'être de droite ou de gauche. Par contre, il y a quand même une sorte d'antagonisme qui se fait jour entre les métropoles et les zones rurales. Vous le savez très bien, là, c'est ni de droite ni de gauche.
La réponse est oui. La réponse est oui. Et l'antagonisme, il se fait dans l'éducation. C'est pour ça qu'il faut des lycées dans la ruralité. Il se fait dans les entreprises, c'est-à-dire qu'on aurait des start-up performantes dans les métropoles et on n'aurait pas d'entreprises innovantes sur les territoires ruraux. Et pourquoi ? Parce qu'il y a une fracture numérique rurale qui est en train de s'installer. Et effectivement, si on ne répond pas sans cet ensemble de fractures, qu'elles soient numériques, éducatives et des territoires ruraux, on aura demain dans les territoires ruraux des monsieur Pelletier, des monsieur Wauquiez, des monsieur Le Pen, des monsieur Mélenchon, et on sera une fracture politique.
Plutôt Madame Le Pen.
Pardon, oui.
D'où ce dépôt d'oignons le 8 octobre devant une grande surface de l'agglomération orléanaise. Rappelez-nous pourquoi vous avez fait cette démarche.
C'était simple. Moi, sur mon territoire, j'avais des agriculteurs qui avaient des oignons qui leur étaient payés entre 7 et 9 centimes. Et je suis allé faire un tour dans
les supermarchés.
Le kilo, pardon. 7 et 9 centimes le kilo d'oignons. Je vais dans le supermarché. Qu'est-ce que je regarde ? 2,49 €. Je me dis, on marche sur la tête. Alors, je prends un camion chez un autre paysan. Je charge une tonne d'oignons et un dimanche matin, parce que je suis contre le travail le dimanche. Et je suis assez libre. J'ai voté avec les communistes sur cette affaire-là. On va dire que je suis de gauche pour le coup. Mais pas mon groupe n'a pas voté la même chose. Je suis contre le travail le dimanche. J'ai pris un hypermarché qui ouvrait le dimanche. J'ai été regarder celui qui était le plus cher. J'ai déversé cette tonne d'oignons. Tous les gens en 20 minutes sont venus chercher, donc il n'y a pas eu de gaspillage alimentaire. Et finalement, j'ai pu dialoguer avec le ministre de l'Éducation, de l'Agriculture. J'ai été nommé parmi les 7 députés aux États généraux de l'Agriculture. Le ministre de l'Agriculture, qui viendra sur notre territoire et s'y est engagé, et certainement chez notre producteur d'oignons, a dialogué avec moi. Peut-être que ce que j'ai fait a alerté sur le discours du président de la République à Rungis. Donc on est parti de quelque chose qui était sur notre territoire pour dénoncer des marges abusives sur le dos de nos agriculteurs et les agriculteurs du Loiret.
On va peut-être rester en deux mots sur l'agriculture avec le glyphosate, avec ce report. On a appris cette semaine de l'Europe pour prolonger ou non l'autorisation du glyphosate en Europe et donc en France.
Le glyphosate qui a été reconnu effectivement cancéreux par les instances
internationales. Cancérogène probable.
Cancérogène probable. Donc on va continuer, on va attendre 3 ans avant d'interdire ce produit. C'est quand même la vie des citoyens qui est en jeu.
Alors, le glyphosate, c'est pas bon pour la santé. Faut être clair, faut être précis, c'est pas bon pour la santé. Attention quand on parle du glyphosate et quand on parle évidemment de Monsanto. Le glyphosate lui-même est un produit dangereux. Mais on met des adjuvants au glyphosate, il y en a 6, qui permet au glyphosate d'écarter les pores de la feuille pour une meilleure pénétration. Ce qui fait un effet cocktail de 1 à 100. C'est-à-dire qu'attention demain de ne pas inventer un produit qui serait substitution du glyphosate, mais dont on laisserait les adjuvants qui font des effets cocktails 100 fois plus puissants et plus dangereux que le glyphosate lui-même. Ça, c'est la première des choses techniques. La deuxième des choses, c'est que le glyphosate, qui à un moment donné était juste pour traiter des mauvaises herbes, est devenu un espèce d'élément culturel. C'est-à-dire que finalement, on a détourné l'utilité du glyphosate sur cette affaire-là. Donc moi, je suis très clair, vous savez, vous me connaissez, je suis contre le glyphosate, mais je dis quand même qu'on ne peut pas laisser nos agriculteurs sans glyphosate immédiatement. Parce que sinon, c'est économiquement
intenable. Ils ne peuvent pas se reconvertir en 3 ans, c'est difficile.
Donc moi, je prône l'arrêt du glyphosate dans 5 ans, mais un arrêt ferme du glyphosate. Voilà. En sachant également, je vous le dis, que c'est compliqué en Europe, parce que comme vous le savez, l'entreprise Bayer allemande est en train de racheter Monsanto. Pourquoi rachète Monsanto ? Parce que Monsanto a tellement des procès, des milliards qu'il va devoir payer. Ça veut dire que là on dit bien qu'il y a une responsabilité de santé publique sur le glyphosate. Et comme il n'aura pas les moyens de payer, il va revendre les brevets et les marques à Bayer. Comme ça, lui, il va se retrouver insolvable face à ces milliers de gens, ces milliers d'agriculteurs qui auront été contaminés. Et Madame la chancelière allemande est un peu coincée aux entournures parce que Bayer est un gros fleuron allemand. Donc, il faut être clair, il faut dire le glyphosate est dangereux pour la santé. On fait un moratoire de 5 ans et on permet de trouver des substituts.
RCF, la joie se partage.
Vous écoutez Agora en partenariat avec Maxentre et notre invité est aujourd'hui Richard Ramos, député Modem majorité présidentielle de la 6e circonscription du Loiret. Christian.
Oui, Richard Ramos, par ces deux actions dont nous venons de parler, donc les oignons qui vous ont fait beaucoup pleurer et puis les bottes, vous êtes le député en vue du Loiret. On entend peu parler de vos consoeur de La République En Marche. Comment vous l'expliquez?
Ouais, elle travaille beaucoup. Moi, je les vois au Parlement.
Ça veut dire que vous ne faites rien?
Non, non. On peut être plusieurs à travailler beaucoup. Vous le savez. Voilà. Donc, elle travaille. Moi, vous savez, je ne suis pas dans La République En Marche. Je suis MoDem. Dans un groupe au Parlement qui est dans la majorité présidentielle, on est 50. Voilà. Donc, moi, je travaille. Je les croise. Elle travaille beaucoup. Voilà. Moi, je suis un homme de combat. Je veux être le député du peuple orléanais. Et donc, dans ces combats-là, on me voit au front tant qu'il y aura des combats à mener.
Un bon communicant aussi, Richard Ramos.
Je ne sais pas si je suis un bon communicant. Peut-être que c'est parce que je suis un homme de conviction.
Oui.
Je veux dire, c'est tout. Moi, demain, s'il y a quelques combats que je crois juste, je serai présent. Voilà. Oui. Par contre, ce n'est pas que du média. Quand j'alerte avec les oignons, je suis reçu par le ministre de l'Agriculture, je fais des propositions, vous recevrez l'ensemble d'un dossier complet que j'ai fait sur l'agriculture, je siège aux états généraux avec Madame Voynet sur les consommateurs, c'est-à-dire que l'autre volet qui est en train de s'ouvrir sur l'information consommateur, je serai certainement, je vous le donne un scoop, au Parlement européen pour inviter les députés au Parlement européen à une table de la malbouffe, auquel je vais leur mettre 100 produits de malbouffe, peut-être un petit verre de glyphosate aussi de Roundup en même temps, et ils viendront manger avec moi, parce qu'il y aura un autre combat qui est l'information consommateur. Donc oui, je serai dans ces combats-là.
Alors justement, par rapport aux premières mesures gouvernementales de Macron et d'Edouard Philippe, quel est votre regard de député? Moins 5 euros sur les APL, la suppression de l'ISF, l'augmentation de la CSG, la baisse des dotations des collectivités locales, et j'en passe, quel regard vous portez sur ces mesures?
Qu'est-ce que vous avez voté sur ces mesures? Vous avez voté la suppression de l'ISF, la transformation de l'ISF?
Alors, moi, vous savez que nous, au MoDem sur l'ISF, vous avez vu, François Bayrou était clair.
Oui, j'ai entendu.
On a été clair, on voulait pas que soient exonérés les yachts, les lingots et tout ce qui va avec. D'accord ? Moi, ce que je crois aujourd'hui, c'est que l'idée de remettre, d'exonérer ce qui retourne dans le capital et dans les entreprises françaises est une bonne idée.
Dans l'investissement.
Donc j'ai voté pour. D'accord ? Donc j'ai voté pour. On a mis nos amendements, nous, au MoDem, sur lesquels on était contre toutes ces espèces de choses pour les riches. Entre nous, soit dit, on est entre nous et on se parle franchement. C'est qu'idéologique. Il y a combien eu de yachts achetés en France l'année dernière?
Une dizaine, même pas.
Un. Donc, conclusion, les mecs, ils étaient déjà suffisamment intelligents pour avoir planqué le yacht sur des pavillons panaméens.
Bien sûr.
Donc, en fait, on fait tout un pataquès symbolique. Il faut le faire. Mais ça ne représente rien financièrement pour le contribuable français. Donc, moi, je suis pour le fléchage de l'argent qui est sorti de l'USF dans l'économie. Mais je lui mets une réserve. Je l'ai dit à Darmanin. Je l'ai dit personnellement à Darmanin, il faut que cet argent-là qu'on permette de remettre dans les capitaux aille bien à les entreprises françaises.
Et pour l'instant, il n'y a rien de contraignant.
Mais vous avez raison, et je suis très attentif sur le sujet, à ce que, justement, par l'IRP Madelin, qu'on puisse remonter ce seuil-là. Pourquoi ? Pour pouvoir permettre justement à ce que ça aille bien dans l'économie française. Si c'est le cas... Eh bien, je suis d'accord.
Alors, cette étiquette de président des riches qui commence à coller à la veste d'Emmanuel Macron, selon vous, elle est justifiée ou injuste, Richard Ramos ?
Elle n'est pas justifiée. Elle n'est pas justifiée quand on voit les seuils sur le handicap et un certain nombre de choses, le dédoublement dans l'argonne sur les classes. Voilà, parce qu'il avait un parcours de banquier, on essaie de lui mettre cette étiquette-là. Il y a un vrai risque quand même. Il y a un vrai risque, on l'a dit tout à l'heure, des métropoles qui réussissent, des start-up, etc., qui collent à l'image de Macron parce qu'elle est réelle, mais on en a besoin. Et les oublier. Sur l'APL, excusez-moi, sur l'APL.
C'est une maladresse, c'est
mais
quoi?
Non, sur l'APL. Mais il fallait mettre plus que 5 euros. Sur l'APL, on engraisse les propriétaires. Vous allez aujourd'hui à Paris, vous avez logement alloué 600 euros, dont 500 euros d'APL. Donc, conclusion. Comme quand il y a des primes pour les chaudières à granulés bois, on augmente le prix de la chaudière à granulés bois et on augmente artificiellement le prix. Ce qu'il fallait sur les étudiants, c'est que les étudiants, ils aient, comme, et là pour le coup, je vais être un peu de gauche, comme l'avait dit Benoît Hamon, un minimum vital, un revenu universel qui leur permettait de louer quelque chose, mais à titre personnel, mais pas qu'on fasse une prime aux propriétaires privés. Et l'APL, finalement, en France, on est passé à 18 milliards de distribution. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait simplement qu'on a permis à des propriétaires et aux gens riches de s'enrichir encore plus.
Donc comment on fait pour, là aussi, obliger, contraindre les propriétaires à baisser leur loyer ?
Mais on ne peut pas contraindre les propriétaires. C'est là où je suis un homme de droite. Un coup à droite, un coup à gauche. C'est que moi, c'est le marché qui détermine le prix. Mais à partir du moment où on ne soutient pas artificiellement le prix du marché de l'immobilier, eh bien naturellement les prix baisseront. Quand un propriétaire ne trouvera pas preneur, quand on sera sur des marchés qui ne seront pas en tension, eh bien finalement les prix baisseront. C'est la nature quand même de l'économie libérale, mais la vraie.
Sur une autre affaire en cours, l'affaire du logement social, vous avez quelle position, Richard Ramos ?
Alors, pour l'instant, je suis en train de rencontrer, j'ai vu à Orléans les bailleurs sociaux.
Oui.
Alors, il y a deux cas, parce que là, pour le coup, on ne peut pas généraliser. Il y a dans les bailleurs sociaux ce qu'on appelle les dodus dormants. Alors, le dodu dormant, c'est un bailleur social qui ne construit plus de logements,
oui.
qui a construit des logements dans le passé, qui prend le pognon et qui fait un peu de gras.
Ce qu'a dit le président.
Il y en a, et la somme globale est de 11 milliards.
C'est énorme.
C'est le gras de 11 milliards. Donc, le président a dit, il faut le réinjecter.
Mmh.
Il y a un vrai problème parce qu'il y a des bailleurs sociaux en fonction des territoires qui ont d'abord des populations très fragiles. Et là, il faut faire très attention parce qu'il ne faut pas fragiliser davantage ces populations-là. Et on a aussi des bailleurs sociaux qui ont fait des grands investissements. Alors, attention. Ce qui ne va pas non plus, c'est que quand un bailleur social construit un mètre carré, il est quasiment 10% plus cher qu'un bailleur privé.
Mmh.
Parce qu'on lui a mis des contraintes supplémentaires débiles. Donc, si on veut pouvoir contraindre un peu les bailleurs sociaux à enlever du gras, il faut aussi qu'en même temps, on puisse lui redonner des marges de manœuvre pour avoir des normes qui soient vraiment sur le marché équivalentes au marché privé.
Donc, pour l'instant, vous votez sans état d'âme les mesures du gouvernement Macron et Philippe ?
Alors, sans état d'âme, c'est mal me connaître. Moi, je vote toujours avec mes états d'âme. Et je vous l'ai dit tout à l'heure sur le travail de dimanche, je n'ai pas voté. On parlera peut-être du CETA.
Oui, absolument.
Je ne voterai pas le CETA.
Pourquoi ?
Pour une raison
simple.
Mais parce que quand on fait venir de la viande qui va venir du Canada, cette viande-là sera engraissée avec de la farine animale. D'accord ? Et nous, on a connu les problématiques de la farine animale. Donc moi, gouvernement...
Et puis dans des fermes de plusieurs milliers de bêtes.
Voilà. Donc moi, gouvernement, pas gouvernement, groupe MoDem, vous connaissez ma liberté, je voterai contre le CETA.
Alors le CETA, accord entre l'Europe et le Canada, il y a des députés qui demandent aujourd'hui le vote d'une exception climatique. Les associations écologiques disent que c'est de la poudre aux yeux. Votre avis ?
Non, mais il faut une exception climatique et il faut une exception comme la culture gastronomique. C'est-à-dire qu'on oublie dans toutes ces affaires-là, évidemment, il y a deux problèmes. Il y a un problème environnemental, il y a un problème de santé publique, il y a un problème d'information consommateur et il y a un autre problème qui n'est jamais traité, qui est un problème de la gastronomie, c'est-à-dire du goût. C'est-à-dire que nous, on a une vache qui a été pâturée à Orléans, elle n'a pas le même goût que si elle était pâturée en Auvergne ou en Normandie. Parce qu'en Normandie, la température fera que l'herbe a un goût différent. Donc
c'est ce qu'on appelle le terroir.
C'est le terroir. Et donc, moi, je suis pour une exception culturelle gastronomique.
Alors, le plus simple, effectivement, ce serait de ne pas le... qu'il n'entre pas en vigueur, ce traité. Est-ce que vous avez... Là, est-ce que vous allez vous impliquer fortement ?
Ah ben oui, je vais m'impliquer fortement. Mais je comprends aussi des gens qui vont voter pour le CETA. Parce que quand vous avez d'autres types d'entreprises industrielles qui, dans le cadre du CETA, vont gagner des marchés, je pense à Orange et d'autres, etc., il y en a qui vont se dire la balance est plutôt en faveur de la signature du CETA. Il y a un moment donné, chaque député vote en conscience. Moi, ma conscience fera que je serai contre le CETA.
Christian Bidault.
Oui, j'aimerais qu'on revienne un peu à la politique, j'allais dire politicienne, puisqu'on parlait tout à l'heure des rapports de force à l'Assemblée nationale. Christophe Castaner vient d'être nommé par Emmanuel Macron comme président du groupe En Marche. Vous trouvez ça normal ? Ça fait un peu Godillot des années 60 quand même. C'est le président de la République qui nomme les chefs de parti.
Apparemment, il ne l'a pas nommé.
Il va passer devant... c'est quoi le conseil
Voilà, il va être élu dans le cadre. Mais vous savez, je vous l'ai dit moi.
C'est un habillage.
Je suis pas En Marche. Donc voilà.
Justement,
donc,
vous avez un regard.
Qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. Mais il n'y a pas de doute que c'est le président de la République qui influence.
Bien sûr.
Voilà. Alors, Godillot, non, je pense pas qu'on puisse dire Godillot. Voilà. Mais c'est leurs affaires, c'est pas les miennes.
D'accord.
Oui, mais ce
alors...
que dit Christian, c'est qu'on reprend certaines mauvaises habitudes que le président avait promis de balayer.
Ah ben, j'en sais rien. Moi, j'ai aucun doute que le président est jupitérien. J'ai aucun doute. J'ai aucun doute. Ce type est formidable. Il est intelligent. Eh bien, je pense qu'il voilà. Et dans 5 ans, s'il a pas fait le job, eh ben il faudra voter pour un autre.
Je crois qu'il y a une ministre qu'il apprécie beaucoup, c'est Jacqueline Gourault.
Oui.
Est-ce que Jacqueline Gourault pourrait remplacer Christophe Castaner comme ministre chargé des relations avec le Parlement ?
Alors, je ne sais pas si elle pourra, mais en tout cas, je le souhaite.
Vous le souhaitez ?
C'est-à-dire, je le souhaite ardemment. Vous savez, c'est vrai que Jacqueline est très appréciée du président de la République et du Premier ministre. Jacqueline Gourault. Elle a un rapport aux élus extraordinaire et je pense qu'au plus haut niveau de l'État, ils l'ont compris. Donc j'espère que Jacqueline sera nommée à cette fonction.
Jacqueline Gouraud, qui je rappelle, est sénatrice du Loir-et-Cher.
Modem.
Modem du Loir-et-Cher. Alors pour rester sur ces rapports de force à l'Assemblée nationale et dans le pays, Emmanuel Macron est arrivé à ses fins, c'est-à-dire qu'il a déglingué complètement les Républicains, il a déglingué le PS, il est en train de créer... un grand mouvement centriste, à la fois à l'Assemblée nationale et, espère-t-il, dans le pays. Comment le MoDem va se situer là-dedans? Vous allez tous vous intégrer dans le même parti? Comment ça va se passer?
D'abord, je ne crois pas que le président de la République est en train de créer un parti politique. Je pense que comme vous
il
l'avez
inspire.
Vu... Mais comme vous l'avez vu, il prend plutôt de la hauteur et il remet au cœur de l'État la Ve République avec une présidentialisation de la fonction. Voilà. Donc ce n'est pas le président de la République, même s'il le souhaite, qui organise cette affaire-là.
Il tire les ficelles.
Moi, je suis pour un centre indépendant. D'accord. Donc à l'Assemblée nationale, pourquoi nous aujourd'hui nous avançons, nous gagnons quelques combats? C'est parce que nous sommes à la fois dans la majorité présidentielle et à la fois nous sommes indépendants. Donc pour moi, tous les vendeurs, tous les centristes qui vont à la soupe ne sont pas de vrais centristes. Je suis pour un vrai centre indépendant. Donc je pense qu'à l'Assemblée nationale, il y aura des gens qui nous rejoindront sur cette affaire-là, mais à l'aune d'un contrat d'indépendance.
Et revenons au local, à Orléans par exemple, est-ce qu'il faut reconstituer ce centre et comment et avec qui?
Moi, vous savez, je voudrais effectivement reconstituer le centre à Orléans. Vous savez, je crois que je suis sur une radio chrétienne. J'étais dimanche dernier dans une messe de réconciliation entre les protestants et les catholiques. Très, très belle messe. Et j'avais à côté de moi M. Montillo.
Qui est un centriste aussi.
Qui se dit centriste.
De l'UDI.
Qui se dit centriste.
On va rappeler, c'était dans le cadre des 500 ans de la réforme de Luther.
Tout à fait. Et M. Montillo était à mes côtés et il me dit... C'est drôle, tu ne dois pas avoir l'habitude d'être là, toi. Ça te change de ta HLM. Et pourtant, il connaissait tous les chants chrétiens par cœur. Tous. D'accord? Donc, pour moi, il ne peut pas être centriste. Je veux dire, je suis sur une radio chrétienne. La vie du Christ, c'est le don à l'autre. D'accord? Donc, quelqu'un qui, dans une église, est en train de me dire ce genre de choses, ça ne peut pas être un centriste. D'abord, à mon avis, il ne peut pas être chrétien. Mais à mon avis non plus, il ne peut pas être centriste.
Donc vous allez faire un tri sélectif des centristes.
Chacun fait ce qu'il veut.
Ouais. Et inspirer peut-être des candidats pour les élections municipales de 2020 2021.
Alors là, vous savez, M. Bidault, les élections municipales dans 2020-21, je m'en tape comme l'an 40. Par contre, reconstruire dès aujourd'hui le centre à Orléans, oui, c'est une de mes préoccupations.
Derrière qui?
J'aime beaucoup des gens comme Tahar Benchaban à gauche. J'aime beaucoup des gens comme Pierre Alaurent, qui me semble quelqu'un qui a une vraie vision centriste du territoire, quelqu'un qui est ancré dans notre territoire. Et je pense qu'il y aura des gens à agréger, comme Pierre Alaurent, comme Tahar Benchaban, pour créer vraiment un esprit centriste sur ces territoires.
Olivier Carré n'en fait pas partie. Parce qu'il s'est recentré quand même, le maire d'Orléans et le président de la métropole.
Je pense qu'Olivier Carré, qui, à mon avis, aujourd'hui, se rapproche un peu politiquement déconstructif, est un libéral. Donc, ce n'est pas un centriste. Voilà, mais ça ne l'empêche pas peut-être d'être un humaniste.
Alors, il nous reste 2 minutes, Richard Ramos. On a envie de vous demander, est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez à l'aise, donc en tant que député, et surtout, sur quel dossier vous allez travailler prochainement?
Est-ce que vous avez l'impression que je ne suis pas un garçon à l'aise, moi? Moi, je prends du plaisir partout où je vais. Quand on est dans les
Parce
combats, c'est merveilleux.
Parce que vous êtes encore un jeune député.
Oui, bien sûr. Mais vous savez, moi, j'aime bien essayer. J'aime les gens et je ne me force pas. Et donc, là où on vient me voir dans les quartiers, vous savez qu'à l'Argonne, demain, il y a une classe de l'Argonne qui va être au Parlement, au Parlement des jeunes. Voilà. Eh bien, je suis content quand c'est ça. Quand je joue à la pétanque et qu'il y a des gens qui sortaient de prison et que je vais jouer avec eux et qu'ils me disent « ça me fait plaisir qu'un député fasse une partie de boule avec moi », ça me fait plaisir. Donc, des combats, j'en aurai plein. Je veux rester tel que je suis. Et dans 5 ans, vous me retrouvez tel que je suis, homme de combat et homme de conviction.
Donc en même temps, vous arrivez à être député, à voter des lois au plan national et à revenir sur le terrain, parler à vos électeurs, ou à ceux qui ne le sont pas d'ailleurs.
C'est
pas facile quand même.
C'est l'une des difficultés. Et un jour, on pourra en reparler. C'est très compliqué de trouver l'équilibre entre la fabrique de la loi, où là, on construit des amendements, on construit des propositions de loi sur le territoire national. Il y a quelques combats, et vous le disiez, qui me tient à cœur, par exemple sur la ruralité, mais aussi dans les petits restaurants, quand ils ont un ticket restaurant et qu'ils vont faire traiter le ticket restaurant, ils payent 10% de frais. McDo, ils payent 1% de frais, alors que le ticket restaurant, il a la même valeur faciale. Je vais aller combattre ce genre de choses. Et donc, oui, je serai sur des combats, oui, je serai sur des combats nationaux, mais toujours des combats nationaux qui ont une réverbération sur notre territoire.
Merci beaucoup, Richard Ramos, d'avoir été l'invité de RCF Loiret ce matin en partenariat avec Maxentre. Merci beaucoup, Christian Bidot.
Merci, Sophie.
C'est la fin de cette émission, mais vous pouvez la retrouver en podcast sur rcf.fr ou sur le site de Maxentre en tapant maxentre.fr. Bonne journée à tous, au revoir.